Avec lui, tu veux rester poigné dans le trafic. Avec lui, jamais besoin de reprise. Le but est tout le temps bon. Pour tout savoir, voici Martin Leclerc.
Salut Martin.
Salut Martin.
Martin, ça va bien ce matin?
Bon matin les garçons, oui, ça va très bien. Jour de match.
Ben oui,
yes. Oui, monsieur.
La troupe de John Cooper débarque en ville et c'est un match contre le Lightning de 4 points, mesdames, messieurs.
Oui, et ça, des matchs significatifs contre le Lightning après les fêtes. Si vous avez probablement une bonne mémoire, si vous vous souvenez de la dernière fois que c'est arrivé, parce que, écoute, j'ai repassé à travers les affrontements les deux équipes tantôt, là, puis je pense que ça, on peut cibler ça autour de 2017, là, quand le Canadien avait terminé au sommet de sa division, si ma mémoire est bonne, puis que le Lightning avait raté les séries de peu, mais depuis ce temps-là, on s'entend, le Lightning est dans une autre ligue par rapport aux Canadiens. Et là, ben, on va voir quelque chose. Ça a été le standard, le Lightning, pour, tu sais, dans la Ligue nationale pendant plusieurs années. Et là, on a la chance de disputer un match significatif contre cette équipe-là. Si le Canadien gagne ce soir, le Canadien va être à un point seulement du Lightning.
Avec
quand même, ben oui, c'était de la science-fiction. Il y a un mois et demi, cette conversation-là qu'on a, c'était de la science-fiction. Puis, bon, tu sais, le Lightning traverse une période difficile depuis le temps des fêtes. Cette période difficile-là a commencé contre le Canadien, justement, quand le Canadien a fait son voyage pivot en Floride, quand on a remporté des victoires contre les Panthers et le Lightning. Mais ça reste une très, très bonne équipe de hockey qui, en principe, va se qualifier pour les séries. Mais c'est en train de débouler tranquillement pour eux. Puis j'imagine que c'est une équipe qui va se présenter. Là, ils ne prendront pas ce match-là à la légère ce soir. Et je pense qu'il n'y a plus beaucoup d'équipes qui prennent les matchs légère quand ils passent au Centre Bell. D'ailleurs, les gars, c'est André Vasilevski qui va être dans le filet ce soir.
Monsieur.
Les Maple Leafs jouent deux matchs en deux soirs et ils ont préféré faire jouer Jonas Johansson. Oui, ils ont préféré le faire jouer à Toronto et garder Vasilevski pour Montréal. Alors, c'est quand même intéressant de voir ça parce que c'est pas arrivé souvent au cours des dernières saisons, ce genre de situation-là.
Et Martin, le Lightning, là, si on regarde leur line-up, là, ils ont deux excellentes lignes, mais après ça, là, je vais dire une affaire, là, la profondeur qu'on connaît d'eux dans les dernières années, là, c'est ordinaire, le troisième et quatrième trio. Puis si on regarde au niveau des défenseurs, là, t'as Victor Hedman qui est excellent, t'sais, Radish a des bruits, mais à part ça, on a des blessés. T'sais, Ryan McDonough, c'est pas le Ryan McDonough qu'on a déjà vu. Là. Fait que c'est ordinaire. Il y a un bon gardien de but, excellent gardien de but, ils sont excellents sur le power play. Mais t'sais, dans l'ensemble, là, sur une game disciplinée, ils n'ont pas quatre trios qui peuvent garocher n'importe quand ça a de l'air. Je regrette, mais c'est plus ça le Lightning de Tampa Bay. Là.
Non, écoute, ça a été une période très difficile pour les directeurs généraux au cours des dernières années, ouais, avec le gel du plafond salarial. Habituellement, ouais, c'est le plafond le plus restrictif du sport nord-américain, du sport professionnel nord-américain. Ouais. Puis il y avait toujours un petit peu de croissance, même avec quand il y avait un peu de croissance, les directeurs généraux qui avaient des bonnes équipes étaient toujours obligés de sacrifier un gars ici et là. Mais là, tu regardes à la fin des émissions, là, le présentement, le total, c'est que les troisième et quatrième trio du Lightning, ce sont des gars à 800 000 $ là, les six. Mm-hmm. T'as à peu près 5 millions de salaires sur les deux derniers trios du Lightning, comparativement à quoi? Une vingtaine de millions sur les deux derniers trios du Canadien. Fait que la profondeur est du côté du Canadien. Les troisième et quatrième trios du Canadien ont marqué 28 buts de plus que les troisième et quatrième trios du Lightning.
Incroyable, quand même.
Oui, on parlait de science-fiction tantôt. Là, imaginez une conversation où on pouvait se dire le Canadien a plus de profondeur que le Lightning de Tampa Bay. Ça aussi, c'était surréaliste il n'y a pas si longtemps.
Ah, c'est officiel.
C'est ça.
Mais le star power, on s'entend, est encore du côté du Lightning. Ils ont marqué, leurs deux premiers trios ont marqué 49 buts de plus que ceux du Canadien depuis le début de la saison. Sauf que bon, il y a Patrick Laine qui a manqué deux mois, mais quand même, il y a encore la balance penche encore du côté du Lightning de ce côté-là.
Ouais. L'histoire là-dedans, c'est qu'on a bâti les équipes très, très différemment. Puis là, on le voit encore chez le Canadien, de la profondeur qu'on a quand tu descends dans la filiale du Rocket de Laval. Là, on est en mesure de rappeler Winbeck, on sait qu'il va faire la job. Puis la journée quand Heinemann revient, tu renvoies Beck à Laval, c'est retour à la normale. Mais là, on s'entend, là c'est terminé, Pizzetta. Merci pour le service rendu, puis salut.
Ouais, puis moi j'ai trouvé que c'est un épisode étrange ce qui est arrivé avec Pezzetta depuis le début du mois de janvier. Je trouve que ça montre un peu l'état d'esprit dans lequel était la direction du Canadien quand la saison a commencé. T'sais, on s'est dit bon, qui on garde comme dernier attaquant,
comme extra, ouais.
comme extra, puis c'est mieux de garder Pezzetta qui jouera pas souvent plutôt que de garder un jeune puis de nuire à son développement. Fait que nos jeunes vont jouer beaucoup à Laval. On va garder Pezzetta. S'il arrive des problèmes une fois de temps en temps, c'est Pezzetta qui va jouer. Sauf que là, l'équipe s'est retrouvée au milieu d'une course aux séries qui n'était pas prévue. Mais on a quand même toléré dans l'alignement Pezzetta pendant deux semaines, alors que l'entraîneur, clairement, avait pas confiance en lui. Là, il n'a pas joué du mois de novembre, il n'a pas joué du mois de décembre. Et quand on l'a inséré dans l'alignement, il jouait 3-4 minutes par match dans une période du calendrier où le calendrier est extrêmement exigeant. Là, l'équipe n'a même pas le temps de s'entraîner tellement il y a des matchs, puis il faut reposer l'équipe. Et je trouve ça, honnêtement, j'ai trouvé ça très particulier. T'sais, c'est un milieu, la Ligue nationale, où... habituellement, tu laisses rien au hasard, là. T'sais, c'est pour ça
que... C'est une grosse marque de respect, je pense, pour Pezzetta. Je pense que qu'est-ce qu'il a... T'sais, le gars, il a fermé sa gueule, il a pas joué pendant longtemps, il pratiquait, il s'entraînait, tout ça. C'est un bon coéquipier. Tu le vois dans le vestiaire après le game quand il jouait pas en habit, puis les high-five avec les gars. Je pense que c'est par respect, Martin, qu'on l'a fait jouer. T'sais, on lui a donné un break, on l'a inséré dans la formation. Je le sais, Max, puis il a pogné des punitions, puis il a mis le club dans le chenoute. Je comprends tout ça, mais... T'sais, comme coach, là, tu vis avec ce gars-là tout le temps. Puis tu vois qu'est-ce que ce gars-là apporte, même s'il apporte rien sur la glace, il apporte de quoi dans le vestiaire, puis les gars sont contents de le voir dans le vestiaire, tu donner une chance de jouer une game une fois de temps en temps. C'est juste ça. C'est pour ça, je pense, qu'il a joué. C'est pour ça qu'on n'a pas effectué un rappel tout de suite, je pense.
Oui, mais écoute, c'est pas mal la seule explication, Gilbert. Ouais. Et dans le contexte du Canadien, tu sais, dans un contexte d'équipe en reconstruction, ce que tu dis là, moi, je trouve que tu sais, c'est tout à fait normal. Puis de démontrer du respect aux athlètes qui font partie de ton équipe puis qui sacrifient, tu sais, qui jouent pas souvent, qui ont des rôles ingrats, je trouve ça correct. Mais dans le contexte où le Canadien se battait à la vie, à la mort, dans un calendrier ultra compétitif, c'est quand même particulier que ce soit arrivé. Je serais très surpris qu'on revoie ça, honnêtement. Et il y avait une scène durant l'entraînement d'avant-match, en fin de semaine, dimanche. On a habillé Pezzetta pour la séance d'échauffement. Puis, tu sais, je le voyais à côté sur la bande au banc du Canadien, puis il regardait Owen Beck prendre des répétitions avec la quatrième trio, puis je me disais, c'est cruel, le sport professionnel.
Ouais,
c'est son destin. Là. On peut pas le réinsérer dans des matchs significatifs si l'entraîneur n'a pas confiance en lui.
On peut pas faire la charité à ce temps-ci de la saison, là, parce que
exact,
il est fin.
Exact.
Le contexte aussi, tu sais, on était sur la route, procédant un rappel, tu sais, c'est un petit peu, en tout cas, moi, je pense que c'est par respect puis un petit peu les circonstances, mais tu avais raison, les gars, tu sais, on peut pas gagner. Parce que le quatrième trio, là, on parlait de profondeur tout à l'heure, le quatrième trio avec Pezzetta, on va dire, une affaire, c'est pas la même paire de manches qu'avec un Heinemann ou même un Owen Beck, là.
Même
pas du tout, là.
Tu sais, il y a le bon vieux dicton qui dit que la chaîne est toujours aussi forte que le plus faible de ses maillons. On a laissé jouer un maillon faible, puis Beck a joué 8 minutes quelques, il a joué plus que dans tous les matchs où Pezzetta avait été employé. Il a bien joué défensivement. Je me souviens d'une séquence dimanche contre les Rangers où il a fait un repli défensif d'enfer. Là. Il a tué un 2 contre 1 des Rangers qui aurait pu être une chance de marquer. Il a pas fait mal à son équipe. Il faut que tu laisses dans l'alignement les gars que l'entraîneur peut utiliser. Là, c'est trop important.
Hey, j'ai une mini-question. Ça n'a pas rapport, mais je vais quand même la poser. Le fait qu'Heinemann se soit blessé parce qu'il a été frappé par une voiture et que ça amène le rappel d'Owen Beck, je pense pas que la direction du Canadien avait comme plan de faire jouer Beck là, dans les prochaines semaines. Là, on a l'occasion de voir comment il se débrouille dans la Ligue nationale de hockey, où il est rendu dans son développement et où est-ce qu'il va se situer l'année prochaine. Est-ce que tu penses, Martin, que ça peut avoir un impact sur le cas de Jake Evans, dans le sens que l'organisation, s'il voit que Beck est capable de tirer son épingle du jeu, qui est plus près qu'il pensait, peut-être qu'on pourrait changer notre fusil d'épaule et peut-être se dire qu'Evans, on n'a pas besoin de le payer 4,5 millions pour la suite des choses, que Owen Beck pourrait faire le travail?
Peut-être qu'on peut regarder aussi si Beck pourrait pas prendre un rôle d'ailier aussi. Il y a plusieurs vétérans sur les ailes qui sont en fin de contrat aussi. Puis c'est une façon intelligente d'insérer un jeune joueur dans l'alignement, un jeune joueur de centre, des fois de le faire commencer à l'aile puis de lui permettre de se familiariser avec le jeu de la Ligue nationale. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que ça vaut, Anthony, ça vaut de l'or pour un jeune joueur.
Ben oui.
Le fait de pouvoir toucher aux ligues majeures pendant une courte période de temps, de mesurer où il est rendu. Et quand tu retournes après ça au sein du club école, tu peux te dire, OK, là, je sais où je suis rendu, je sais sur quoi je dois travailler, mm-hmm. je sais, j'ai une photo encore plus nette de ce qui m'attend quand je vais aller en haut. Et ça fait partie du processus de développement de permettre aux athlètes de se tremper les orteils au niveau plus élevé puis de dire, OK, là, je retourne en bas puis je sais ce qui me manque. J'ai en tête clairement la photo de ce qu'il faut que j'accomplisse avant de retourner en haut. Fait que d'un point de vue du développement, ça vaut de l'or pour Beck lui-même, mais ça permet aux Canadiens aussi de prendre la température puis de voir où ce qui est rendu puis de voir éventuellement ce qu'on va pouvoir faire avec les autres.
Parce qu'il n'est pas au niveau de Jake Evans, Tony. Tu sais que ça a peut-être une transaction dans la tête, Anthony, parce que c'est ta spécialité. C'est un petit peu ça que tu voulais dire.
Pour des choix. On veut des choix.
C'est pas ça que j'ai dit. J'ai juste dit que ça permet à l'organisation d'avoir une meilleure évaluation d'Owen Beck.
T'as raison, mais bon, t'as dit, si on sera, ça vaut pas, Jake Evans vaut pas 4 millions par année si Owen Beck va bien. Owen Beck est pas rendu au niveau de Jake Evans, je regrette, là. Il est pas rendu là. Jake Evans, il nous donne du très bon hockey. Bon hockey.
Tu sais, puis quand on va voir la confirmation d'augmentation du plafond salarial de 9 millions par année, là, tu sais, 9 millions, c'est un joueur et demi de plus, ou à peu près, là. Fait que la marge de manœuvre est pas la même. Puis là, on est déjà en train de le préparer, ça, puis de voir justement qu'est-ce qu'on est capable d'octroyer à qui? Tu sais, le travail est déjà commencé, là.
Ouais.
En même temps, tu ne peux pas surpayer non plus. Je suis d'accord. Puis là-dessus, Tony, on se rejoint. Tu sais, Jake Evans, à un moment donné, faut pas exagérer non plus, donner 5 millions par année. Je comprends. Puis ça, je suis d'accord avec toi.
Mais souvenez-vous de ce que Martin Saint-Louis disait dimanche. Tu sais, les gars, t'en as jamais trop de centre dans ton alignement. T'as jamais trop de gars qui sont capables de prendre des mises au jeu. C'est moins de responsabilité quand tu joues à l'aile. Nick Suzuki a commencé comme ailier au sein du quatrième trio sa première saison. Là, puis il a monté les échelons tranquillement, mais regardez autour de Jake Evans, il y a d'autres alliés aussi qui sont en fin de contrat. Il y a d'autres décisions qui vont être à prendre. Probablement qu'on est en train aussi de se demander est-ce que Jake Evans peut prendre la place de Dvorak? Est-ce que, tu sais, Dvorak, qu'est-ce qu'on va faire avec? Moi, je doute qu'il va être de retour avec cette équipe-là, mais il faut voir comment le Tetris va se compléter à ce moment-là.
Absolument.
Ouais, ça va être intéressant. Martin, merci de ton temps ce matin. On se retrouve demain, même heure.
Avec grand plaisir, les gars. Merci.
Salut, Martin.
Salut, Martin.
C'était Martin Leclerc.